Bonjour.
Je salue à tout un chacun qui a pu venir ici dans la maison de notre Père, mais je salue aussi à nos autres collègues qui sont sur Zoom, parce que pour Dieu, il n'y a pas de barrière. Nous sommes tous ensemble, que ce soit sur Zoom, que ce soit ici en présentiel, nous sommes tous dans la maison de Dieu. Soyez les bienvenus alors. Aujourd'hui, je suis content. Je suis très content de partager un message avec vous. Et le message que je voudrais que nous partagions aussi concerne la protection divine. La protection divine. Et nous venons de fêter des anniversaires. Et quand nous fêtons l'anniversaire, ça veut dire que nous sommes encore là. Ça veut dire que nous avons encore le souffle de vie. Ça veut dire que nous avons été protégés. Et c'est ça que nous allons discuter pendant ces quelques minutes pour voir que nous sommes très heureux, que nous avons de la chance de voir ce Dieu qui nous protège. Nous allons donc parler de cette protection. Et le thème que je voudrais que, pour le message que je voudrais que vous preniez, que vous rentriez avec, ce message est celui-ci. Ne crains rien, car Dieu viendra à ton secours. C'est ça le message d'aujourd'hui. Ne crains rien, car Dieu viendra à ton secours. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde, nous recevons beaucoup d'attaques, nous recevons beaucoup de difficultés, d'attaques, que ce soit sur notre santé, à cause des maladies. Nous prions toujours pour des personnes qui sont malades. Nous avons des attaques concernant notre vie sociale. Nous avons des attaques concernant notre vie de tous les jours. Est-ce que nous avons de quoi manger? Est-ce que nous avons de quoi nous vêtir? Est-ce que nous avons de quoi boire? Est-ce que nous avons un toit? Tout ceci, Dieu nous dit, ne crains rien. Ne crains rien. Dieu vient à ton secours. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et ça, nous le trouvons dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 41, nous allons le lire. Ésaïe chapitre 40, 41, verset 10. Et je lis. Ésaïe 41, verset 10 dit ceci. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Je viens à ton secours. Pour sûr, et je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. C'est ça le message. C'est ça une promesse. Une promesse de Dieu qui nous dit que il est là, que nous ne sommes pas seuls et que rien ne peut nous arriver tant que nous nous sommes confiés à lui. C'est ça notre message. Et cette parole de Dieu est un réconfort pour les croyants en temps de peur et de découragement. Dans les temps difficiles, nous avons besoin d'encouragement et de réconfort. Combien de fois est-ce que toi personnellement qui m'écoutes, tu t'es senti dans une situation angoissante, peut-être parce que tu étais gravement malade et tu ne savais pas que tu allais être guéri, parce que tu étais dans le chômage et tu ne savais pas si tu allais avoir de l'emploi, parce que tu étais malmené au niveau de la société, soit pour des raisons politiques, et que tu ne trouvais pas de recours ou de secours, et que tu t'en es sorti. Est-ce que c'est toi qui t'en es sorti? La réponse est non. C'est Dieu qui t'a fait sortir de cette situation. Et c'est ça notre sujet de reconnaissance envers celui qui est toujours à côté de nous, essayer de nous protéger, essayer de voir quelles sont les difficultés que nous rencontrons de tous ordres et qui nous protège. C'est extraordinaire de voir cet amour de notre Dieu qui est toujours à côté de nous. Quand je dis à côté de nous, nous allons voir dans la Sainte Écriture des situations où Dieu envoie réellement un ange pour nous protéger quand nous sommes dans des situations difficiles. Je commencerai par le premier exemple où Dieu a envoyé un ange pour protéger quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qu'il craignait. Et ce quelqu'un, c'est Daniel. Nous allons lire dans Daniel 6, versets 16 à 28. Daniel 6, versets 16 à 28. Nous allons voir comment Dieu a voulu protéger quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qui le craignait, quelqu'un qui se confiait à lui tous les jours, qui était dans une situation difficile, et comment Dieu l'a protégé. Nous allons demander à notre ami parfait de nous lire dans Daniel 6, versets 16 à 28.
Daniel 6, versets 16 à 28. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela d'une voix triste. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen.
Et cette histoire, vous la connaissez tous. Vous la connaissez parce que vous l'avez entendue plusieurs fois. Mais ce qui est génial pour la parole de Dieu, c'est que chaque fois qu'on lit un passage de la Bible, on apprend encore beaucoup de choses. C'est une source intarissable d'informations pour nous chrétiens. Parce que quand on lit un passage de la Bible, on n'a pas nécessairement comme on l'a entendu il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a quelque chose de nouveau. Et moi, quand j'ai lu ce paragraphe, j'ai été étonné de voir qu'il y a beaucoup d'enseignements pour nous les chrétiens. Parce que sinon, on pourrait dire que c'est une histoire d'un garçon qu'on jette de la fosse aux lions, maintenant qui a eu un miracle, puis il en est sorti. Mais ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Hein? Ce texte veut nous apprendre beaucoup de choses. D'abord, commençons par voir le contexte. Qu'est-ce qui se passait pour Daniel? Daniel est là, c'est un captif israélite, mais qui était des captifs au niveau des rois des Perses, mais qui a eu de la chance. Il a trouvé faveur au niveau du roi Darius de l'époque. Et puis, il a été choisi parmi les administrateurs et gouverneurs du pays, on a trouvé les servantes. Mais plus que ça, il était plus encore une promotion. qui est devenu parmi les trois ministres que le roi Darius a choisi. Mais, comme on vient de nous le lire, Daniel était encore plus, a trouvé plus de faveur parce qu'il était plus compétent, parce qu'il faisait mieux son travail. Et le roi comptait même à l'élever au niveau le plus élevé, celui de premier ministre. Vous comprenez que ça devait faire non seulement pas de convoitise, mais plutôt des jalousies. Hein, des jalousies auprès des autres. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, on a voulu l'éliminer, mais on ne savait pas l'éliminer parce que il faisait tellement bien son travail qu'on n'avait pas, c'est ce que nous avons dit, on n'avait pas de reproche à lui faire. On cherchait à gauche, à droite pour voir est-ce qu'il n'a pas fait une gaffe pour qu'on puisse l'écarter, mais on n'a pas pu parce qu'il était bon, parce qu'il faisait son travail et surtout parce qu'il avait une assurance avec son Dieu qui le guidait dans tout le travail qu'il faisait. Est-ce que dans ce que nous faisons, est-ce que dans ce que tu fais, toi, on te dit la même chose? Est-ce qu'on peut dire que toi aussi, tu es irréprochable? Est-ce qu'on peut dire que toi aussi, tu fais ton travail et que tout ce que tu fais, tu le fais avec assurance que tu restes fidèle à ton Dieu? Nous allons voir que rester fidèle à son Dieu, en fait, ça a une récompense. Et c'est ce que Daniel a eu. Et puis, ils ont comporté donc ses collègues, ils ont comporté contre lui. Et ils ont mis en place une sorte de stratégie pour pouvoir l'éliminer. Ils savaient que c'est un croyant, fervent croyant de Dieu, et qu'ils ont trouvé que si on cherche quelque chose du côté professionnel, on ne va rien trouver parce qu'il est impeccable. Et ils ont demandé au roi de signer un décret pour que tout le monde puisse n'adorer aucun autre Dieu sauf le roi. Et que celui qui ne veut pas le faire, on va le punir. Et la punition qu'ils ont trouvée, c'était la plus féroce, la plus terrible, c'est de jeter cette personne dans la fosse aux lions. Le roi l'a fait, bien sûr qu'il aurait été content de le faire, parce que ça le mettait en valeur. Et puis il a signé ce décret. Et puis, Daniel, quand il a vu ça, il n'a pas changé. Pas question pour lui de changer, de ne pas prier son Dieu éternel. Et de prier le roi Darius. Et à ce moment-là, ils ont trouvé un motif d'accusation, ils ont accusé, et la punition était bien tracée, c'est de le jeter dans la fosse au lion. Ils l'ont fait, devenant le roi, ils l'ont fait. Et je crois que ses adversaires croyaient que, aussitôt qu'il sera jeté dans la fosse au lion, il sera croqué par les lions. C'est tout qu'on avait affamé les lions quelques jours avant. Pour qu'il puisse avoir encore plus de force, plutôt d'appétit pour manger ce Daniel. Mais Daniel a passé la nuit avec les lions, mais les lions ne l'ont pas touché. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Pour mieux comprendre ça, mets-toi à sa place. Mets-toi à la place de David, plutôt de Daniel, qui est jeté dans la face de la fosse aux lions, et de savoir comment tu vas. Bon, il a passé la nuit. Le lendemain, le roi Darius est venu voir. Il trouvait que Daniel était là. Et de jouer avec les lions. Il est devenu comme ses copains. Le roi Darius lui demande, mais Daniel, est-ce que tu es encore vivant? Bon, là, quand je vois cette question dans la Bible, moi, je me pose la question. Parce que, est-ce que le roi, en jeta Daniel dans la fosse aux lions, il pouvait avoir encore ce doute que le lendemain, Daniel serait encore vivant. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu voir? C'est parce que, comme nous l'avons lu, le roi l'a fait, mais il était poussé par la foule. Il ne voulait pas le faire, mais il avait peur des gens et il a agi. Bon, ce que nous voyons ici, c'est qu'il a posé la question, Daniel, on va voir le verset 22, verset 22, ok. Je commence au verset 21b. Daniel cria-t-il, serviteur de Dieu vivant. Le mot vivant, si vous avez vos Bibles, il faut le souligner. Parce qu'il y avait des dieux, mais le roi Darius était le Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les dieux qu'on priait dans ce pays, c'était des idoles, ce n'était pas des dieux vivants, sur l'Éternel et le Dieu vivant. Et c'est étonnant de voir que ce roi qui est païen connaisse que le Dieu vivant, donc l'Éternel, c'est un Dieu et qui n'est pas comme les autres. Et c'est ça, exactement. Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, as-tu pu te délivrer des lions? Ça, c'était vraiment une question qui m'intéressait moi de voir que le roi païen, c'est qu'il y a un autre Dieu, un Dieu vivant, qui peut nous sauver même des lions. Verset 22. Alors Daniel répondit à l'empereur, Ô majesté, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'il ne me fait aucun mal. Parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, et comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. Cette réponse, c'était une réponse vraiment qui nous dit tout. Daniel dit, Majesté, oui, je suis encore vivant, et les gens ne m'ont pas dévoré parce que j'ai été protégé. Mon Dieu. Le Dieu vivant que tu viens de citer a envoyé son ange. A envoyé son ange. Ça veut dire que le Dieu vivant ne voulait pas que je meure, a envoyé son ange pour me protéger. Et cet ange-là, il est venu, il a fermé la gueule au lion pour qu'il ne puisse pas me dévorer. Mais c'est pas fini. Il a dit parce que. Après, il y a le parce que. Parce que il m'a trouvé, parce que Dieu m'a trouvé innocent. C'est pour cela que, en fait, Dieu ne l'a pas protégé parce qu'il voulait protéger Daniel. Il l'a protégé parce que Daniel était innocent. Il l'a protégé parce que Daniel était puni, jeté dans la fosse aux lions de façon injuste. Il m'a protégé, il a pris son âme pour me protéger parce que Dieu m'a trouvé innocent, parce que je n'ai commis aucun péché envers Dieu, et ça continue. Comme je n'ai fait aucun mal envers toi, ô majesté. En d'autres mots, Daniel dit au roi, oui, toi humain, tu m'as puni, tu voulais me faire du mal, mais je n'ai rien fait contre toi. Rien. Pourquoi est-ce que tu m'as jeté dans la fosse aux lions? Donc, ici, nous trouvons en fait les deux commandements que Jésus a dit aux gens, dit, quand je n'ai rien fait contre Dieu, je n'ai rien fait contre toi, ça veut dire que je n'ai fait contre Dieu et je n'ai fait contre les humains. Et c'est ça, contre mon frère, mes frères. Donc, premier commandement que nous connaissons, aimer ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même, on le trouve ici. Daniel dit, je n'ai rien fait contre Dieu. Je n'ai fait contre vous. En d'autres mots, j'ai respecté les commandements de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'a protégé. Si nous voulons la protection de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. D'automatique. Nous devons avoir le sentiment que nous sommes sans péché, que Dieu nous trouve innocents. Ça veut dire que nous devons nous séparer du péché pour que nous puissions avoir cette force, cette faveur d'être protégés par Dieu. Non seulement en respectant les commandements de Dieu, mais aussi en respectant aussi notre voisin. Ici, on parle du roi, mais d'une façon générale, c'est notre voisin. Ça peut être un roi ou quelqu'un d'autre. Est-ce que nous l'avons vu? Le roi, alors, demande qu'on fasse sortir Daniel de la fosse aux lions. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant que nous voyons au verset 26. Oh, non, avant le verset 26. Ça, c'est. C'est ce qui m'a étonné aussi en lisant son paragraphe. Là-dessus, ce verset 25. Là-dessus, l'empereur ordonna de lui amener 16 hommes qui avaient accusé Daniel et les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants Les femmes, ils n'avaient pas atteint le sort de la fosse que déjà les lions s'emparaient d'eux et les broyaient les os. Ici, la leçon que nous voyons de cette ligne, c'est que oui, Dieu nous protège. Dieu nous promet sa protection. C'est sa promesse. Mais à condition que nous aussi, nous soyons fidèles à lui, à condition que nous soyons sans péché, il nous protège. Mais plus que ça, Dieu est capable de punir ceux qui nous font du mal. Ces gens, nous avons vu qu'ils ont puni Daniel de façon injuste. Ils ont été payés. Plutôt, ils ont été punis. Et ce sont eux qu'on a jetés de la fosse aux lions. Et eux, ils sont morts. Ils n'ont pas été protégés comme Daniel l'a fait. Bon, je n'entre pas dans les détails. Je ne vois pas pourquoi le roi Daniel, ou plutôt le roi Darius, a puni les hommes qui ont, bon, qui ont fait un plus, qui ont trahi Daniel. Ah, tu as aussi ses enfants et les femmes. Moi, je ne peux pas discuter de ça me dépasse. Mais je trouve que les enfants et les épouses de ces hommes ne devaient pas être punis. Bon, alors, on avance. Quand je lis le verset 26, là aussi, c'est un autre enseignement pour moi. Je lis le verset 26. Alors, l'empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes langues qui habitent la terre entière. Que votre paix soit grande, ça c'est sa lettre. Que votre paix soit grande. Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. Il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne prendra jamais fin. Il y délivre et il sauve. Il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre, car il a arraché Daniel de la griffe. Parce que quand on commençait à lire ce chapitre, on pouvait s'attendre à cette déclaration du roi Darius. Pas du tout. Pas du tout. Parce que Darius est païen. Et quand nous voyons ce qu'il écrit, on voit que il a changé complètement dans sa tête, que il a trouvé autre chose. Il a trouvé que, oui, que le Dieu, ici il appelle le Dieu de Daniel, il a trouvé que ce Dieu de Daniel, qui fait des choses, ça veut dire impossible, hein, protéger quelqu'un dans la fosse aux lions, les lions qui sont affamés, que ce Dieu-là, c'est un Dieu extraordinaire. Que ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu comme il avait l'habitude de voir les dieux, les idoles. Et il change à 180 degrés pour dire à partir de maintenant. Et ce n'est pas moi seul, c'est toutes les nations, c'est toutes les régions de mon pays. Vous devez changer. Il faut adorer le Dieu de Daniel. De voir que l'incident que Daniel a eu un effet sur tout un peuple et sur toute une nation. Et que maintenant, comme c'est le roi qui décide s'il a fait, ça veut dire qu'on l'a fait. Et parce qu'on ne peut pas le désobéir. Ceci, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que l'incident, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons dans la vie, oui, il y a Dieu qui nous protège, mais aussi, si nous les rencontrons, ça peut être utile à d'autres personnes. Ça veut dire que notre situation, nos problèmes peuvent aider les autres, peuvent servir aux autres, hein, dans leur croyance, dans leur conversion. Ici, nous voyons que Daniel a été jeté à la fosse aux lions, mais ça a servi à tout le peuple et que le roi a décidé que les gens suivent le Dieu de Daniel, qui est l'Éternel. Ceci, même quand on voit dans les évangiles, Jésus même le dit, que les difficultés de la vie en tant que chrétiens, nous allons rencontrer, mais qu'il faut que ces difficultés, si Dieu permet que nous ayons ces difficultés, c'est parce que ça va nous servir, nous édifier, parce que nous en sortons, mais aussi ça peut servir de témoignage pour les autres et de voir, ah, si Dieu a permis que Daniel ne soit pas dévoré par les lions, moi aussi, qui suis dans une autre situation difficile, et je ne peux pas avoir peur parce que je sais que ce qu'il a fait à Daniel, il peut aussi le faire pour moi. Ça, c'est l'enseignement que nous tirons de ce chapitre. Donc, vous voyez que dans ce passage, petit passage, il y a beaucoup de choses. Et je suis sûr, si on avait beaucoup plus de temps, on pouvait aussi trouver d'autres enseignements. Mais que le message est ceci, c'est que dans notre vie de tous les jours, nous n'avons pas, nous devons pas nous inquiéter dans la situation de la méchanceté des gens, des accidents qu'on peut voir ou de la haine des gens, parce que Dieu est capable de nous sauver et capable d'envoyer son ange pour nous protéger. Oui. Dans la Bible, il y a beaucoup de situations, je ne vais pas les citer, où Dieu vient à notre aide. Quelquefois, petit à petit, minutes, comme il vient de le faire pour Daniel. Mais quand nous regardons aussi dans le même livre donc, de Daniel, au chapitre 3, on ne va pas le lire, mais au chapitre 3, nous verrons un autre cas où il y avait, Daniel était avec d'autres compagnons, oui, d'autres compagnons qui étaient aussi des juifs, comme lui, et qui, eux aussi, ont été dans la même situation, et ils n'ont pas été jetés dans la fosse aux lions, mais ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Là aussi, nous connaissons des histoires et aussi, et ils ont été jetés, comme pour les punir, dans une fournaise ardente qu'on avait surchauffée pendant quelques jours pour qu'ils puissent périr dans la fournaise ardente. Mais eux aussi, ont survécu, n'ont pas été brûlés. Et quand le roi, à ce moment-là, c'était un autre roi, Nebuchadnezzar, est venu les visiter. Au lendemain, ils trouvaient qu'ils étaient là, en train de marcher, de flâner dans les flammes, sans aucune égratignure. Mais ils étaient trois. Mais quand tu es venu voir, ils trouvaient qu'ils étaient quatre. Mais dis-moi quoi? Nous avons juste trois personnes dans la fournaise, maintenant il y en a quatre. Mais où, la quatrième personne, c'est qui? Et ils ont répondu que c'est l'ange de l'Éternel que tu as envoyé pour venir le protéger. Continuez à voir dans cette présentation donc le mot ange. Le mot ange que Dieu, vous savez dire quoi? Ange, c'est le représentant de Dieu. Dieu veut te protéger et t'envoie son ange pour venir te protéger. Oui. Parlons aussi, je vais donner un troisième exemple concernant la présence de l'ange dans cette protection. Et nous trouvons ça dans Actes 5, versets 17 à 21. Là aussi, nous ne va pas le lire parce que nous connaissons. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 21. À ce moment-là, c'était les apôtres qu'on avait mis en prison parce qu'ils prêchaient l'évangile de Dieu, parce qu'ils prêchaient sur Dieu en disant aux sacrificateurs et aux scribes que oui, que ils ont maltraité Jésus, ils ont mis en prison, mais que ce Jésus-là est ressuscité, et que beaucoup de gens commençaient à se convertir, mais à ce moment-là, ils ont voulu le faire taire, ils ont mis en prison. On les a mis en prison, mais pendant la nuit, il y a encore, là, si vous lisez dans Actes 5, versets 17 à 21, nous trouvons encore une fois que l'ange, l'Éternel est venu de la prison. Il a libéré les apôtres. La Bible nous dit qu'ils étaient liés avec des chaînes. Et les portes étaient fermées. Mais l'ange envoyé de Dieu est venu de la prison en passant par les fenêtres, plutôt par les portes. Il a délié les chaînes et puis il a libéré les apôtres. Peut-être, on aurait cru qu'il les a libérés pour qu'ils puissent s'enfuir. Non, ils ne se sont pas enfuis. Il les a libérés et ils sont retournés dans le temple pour prêcher. Parce que c'était ça le travail qu'il voulait faire. Ici, je voulais souligner aussi une fois que le nom d'ange vient. Donc, nous avons vu trois situations, que ce soit dans la fosse aux lions, que ce soit dans la fournaise ardente, que ce soit dans la prison, que ce soit ailleurs, que ce soit sur un accident de route, un accident d'avion, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans toutes les situations ou toutes les difficultés, il y a l'ange de Dieu qui est toujours envoyé pour te sauver. Pourquoi nous soulignons ça? Nous soulignons ça parce que devant des situations difficiles, nous avons cet humain. Nous avons un désespoir, nous avons la peur, nous avons la frayeur. Comme me se dit, le message que je vous ai dit aujourd'hui, c'est n'aie pas peur, ne crains rien, Dieu viendra à ton secours. C'est ça le message. C'est ça le message parce que il n'y a aucune situation où Dieu ne peut pas te faire sortir. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu peut entrer n'importe où. Dieu peut de jouer tout complot contre toi. Dieu peut faire n'importe quoi pour toi si tu as confiance à lui, si tu te fies à lui, si tu as confiance à lui. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Bon, je vous ai dit que dans la Bible, quand on la lit, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que nous sommes bien, bien protégés. Je vais rapidement citer certains de ces passages. Quand nous regardons au psaume 46, 46, verset 2, Dieu dit, le psaume se dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, c'est le psaume 46, 22, verset 2. Ça nous dit quoi? Ça montre que Dieu est toujours proche de nous et qu'il est prêt à nous aider dans toutes les situations difficiles. Ça, c'est le psalmiste qui l'écrit, qui dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je crois que c'est un verset que nous devions tous le tenir par cœur, comme on nous enseignait à l'école, de ne jamais oublier que dans tout moment de détresse, nous avons un refuge, nous avons un appui. Autre chose, autre information que nous avons, nous le tenons de 2 Corinthiens, chapitre 12, et où il est dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ceci nous montre que la force de Dieu est la clé de notre victoire, même lorsque nous sommes dans notre situation la plus difficile. Je continue à souligner des situations difficiles, parce que c'est là où nous avons tendance à changer, tendance à, je cherche le mot, tendance à décélérer, tendance à douter de l'exemple de Dieu ou de sa présence. Et des fois, nous disons, est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? J'utilise le mot abandonné parce que dans mon pays, en 1994, quand il y avait le génocide, quand les gens mouraient comme des mouches, en fait, beaucoup de gens ont commencé à prononcer ce mot. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu a abandonné ce pays? Mais Dieu n'abandonne jamais, n'abandonne jamais les siens. Quand nous voyons l'Exode 14, verset 14, nous voyons aussi une autre affirmation, une autre promesse. Où dites-nous, où c'est écrit, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des moments difficiles, nos efforts peuvent ne signifier rien. Nos efforts peuvent ne pas faire aucune différence. Mais l'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. Ça veut dire, oui, ayez ta confiance en Dieu. Fie-toi à la présence de Dieu. Lui, il se charge de combattre pour vous. Dieu est toujours disposé à changer nos situations, même quand nous pensons que tout est perdu. Dans le temps. Autre chose que nous voyons dans les Écritures, je vous dis que si c'était protection divine, il y a beaucoup de choses qu'on trouvait dans la Bible. Autre chose que nous voyons, c'est que Dieu est la source de notre force et nous pouvons tout faire grâce à Christ qui nous fortifie. Et ici, Paul dit aux Philippiens 4, verset 13, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dans des moments difficiles, on se sent faible. On se dit, je ne peux pas rien faire. J'ai une maladie grave. Les médecins m'ont dit que je ne peux pas, je sais pas, peut-être dans une année, 2 ans ou 6 mois, je vais mourir. Alors ça m'a faibli. Mais Paul nous dit, je puis tout. Je puis tout par celui qui m'a fortifié. Celui qui m'a fortifié, c'est qui? C'est Dieu. Ça veut dire, si je me fie à Dieu, il me fortifie et je puis tout. Et je peux dépasser cette situation que je qualifie de insurmontable. Je vais conclure notre prédication en disant que nous avons une promesse. Nous avons une promesse. Cette promesse est donnée par Dieu. Et Dieu, nous le savons, Dieu n'est pas une personne pour mentir. Ce que Dieu a dit, une promesse, ça finit toujours par arriver. Ça finit toujours par arriver. C'est une question de temps peut-être qui peut changer, mais ça finit toujours par arriver. Donc, Dieu nous dit, ne crains rien. Oui, je suis à ton secours. Je serai à ton secours. Ça nous montre que dans n'importe quelle situation que nous rencontrons, et à votre âge, tous, vous avez certainement passé des situations difficiles où vous vous êtes posé beaucoup de questions concernant votre vie, non seulement la vie physique, sur les maladies, mais aussi votre situation économique et votre situation politique où vous vous sentiez menacé et Dieu vous a fait sortir de cette situation. Donc, cette promesse-là, elle est réelle. Dit, et la promesse de Dieu de venir à notre aide est réelle. Réelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est juste. Ça veut dire que ce que nous avons lu dans tous ces passages n'est pas une histoire qui a eu lieu il y a des centaines d'années ou des milliers d'années. Non. C'est une histoire qui a eu lieu, oui, il y a quelques années, mais qui se fait chaque jour, qui a lieu chaque jour. Il y a beaucoup de gens qui sont protégés chaque jour. Et nous sommes témoins, nous sommes protégés. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez le souffle de vie, c'est parce que Dieu vous protège. Je parlais de l'ange gardien que vous ne voyez pas parce que l'ange est un esprit, mais qui est là, qui vous protège, qui vous empêche d'aller là parce qu'il y a un danger. Ce Dieu-là, il nous aime. Ce Dieu-là est extraordinaire. Je terminais par le psaume 121, psaume 121, qui nous dit que le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. En fait, ça, c'est le verset 1. Le verset 2 dit, je lève les yeux sur la montagne, d'où me viendra le secours? Le verset 2 dit, alors que le secours me vient de l'Éternel. Donc, dans toute cette situation, nous devons regarder haut, sur la montagne. Quand nous allons regarder haut, ça veut dire regarder Dieu pour nous dire, Seigneur. Oui, je suis faible. Oui, je suis impuissant. Oui, je n'ai pas de moyens pour me défendre. Seigneur, viens sur moi. Aie pitié de moi. Défends-moi. Protège-moi. Et c'est ça que nous disons dans les prières de tous les jours que nous faisons. Oui, quand nous prions pour des personnes qui sont malades, quand nous prions pour nous-mêmes, quand nous prions pour des pays où il y a des difficultés, c'est ça que nous voulons dire. Nous voulons dire, Seigneur, nous regardons sur la montagne, nous regardons très haut, nous regardons vers ta face et nous évoquons ton nom parce que tu es le nom le plus puissant que nous connaissons. Tu es le nom le plus puissant qui peut nous faire quelque chose. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Les autres sont des idoles, mais toi, tu es le Dieu vivant. Et nous disons, Seigneur, fais quelque chose. Protège-nous. Et ce Dieu-là, il nous écoute. Oui, quand je vois ma vie personnelle, je vois des situations dans lesquelles je me suis vu, je me suis retrouvé devant les précipices et devant lesquels je demande, j'ai fait cette prière. Dieu éternel, sauve-moi. Sauve-moi de cette coupe. Sauve-moi de cette situation. Et il l'a fait. Vous avez certainement eu des situations pareilles. Et il l'a fait. Mais ce Dieu-là, c'est un Dieu extraordinaire. Ce Dieu-là, il est digne d'être aimé. Il est digne d'être servi. Plus que ça, il est digne de faire un témoignage pour les autres, pour que les autres connaissent ce secret. C'est un secret que nous avons. C'est un secret que nous avons que ce n'est pas fini. La situation que nous avons sur la terre, ce n'est pas les difficultés que nous avons. Pourquoi est-ce que les gens se suicident? Pourquoi? Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et ça me rappelle la réflexion que nous avons eue le jeudi passé avec notre frère Ghislain. Hein, qui nous parlait de l'isolation de qu'on peut se trouver spirituellement et de voir que tout c'est fini et que les gens peuvent aller jusqu'à se suicider. C'est parce que quand ils se suicident, est-ce que tu crois que tu connais que Dieu existe? Non, parce que Dieu, il a trouvé, il a essayé de, il est dans des difficultés, il essaie de se débrouiller avec ses moyens, aux moyens, ses propres moyens, et puis il vient à l'épuisement. Quand tu as un épuisement, dit, je ne peux plus rien. Il faut que je finisse ma vie. Mais nous ne sommes pas là. Aucun croyant ne se suicide. Non. Non. Aucun croyant ne se suicide parce que disons que Dieu peut agir même à la dernière minute. Ce que toi, tu appelles dernière minute. Et chez nous, il y a un chant dans notre langue qui dit que Dieu peut opérer même au-dessous des probabilités. Vous savez que la probabilité, on commence par zéro. La probabilité que cet événement puisse arriver, c'est zéro, c'est 10%, c'est 5%. Mais la chanson dit que même en dessous de zéro, en dessous de zéro, Dieu peut opérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là où toi, tu crois que c'est pas possible, c'est pas possible, tout est fini. Dieu vient et il agit. Laisse vraiment cette promesse de Dieu que dans votre vie, oui, que vous sachiez qu'il n'y a aucun moment où Dieu ne peut pas aider. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est prêt à t'aider. Mais sinon, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Ce Dieu-là, qui a fait plus qu'autre chose, qui a envoyé son fils qu'il aimait, son fils unique qu'il aimait, pour venir à notre place. Mais est-ce qu'il peut nous laisser comme ça, nous oublier? Non. Mais sachant qu'il est là, mais sachant aussi que nous avons quelque chose à faire. Ce n'est pas un chèque à blanc. Sachant que nous devons aussi nous conduire de façon correcte. Ça veut dire nous éloigner du péché, nous repentir. Et si nous le faisons, il est prêt à nous accueillir. Donc, je termine par cette question, ces deux questions que Paul a posées aux Romains, chapitre 8, verset 31 et 35. Qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les situations que nous traversons? Est-ce que ce sont les difficultés que nous traversons? Est-ce que c'est la haine de Dieu? Est-ce que c'est le conflit conjugal? Rien. Rien ne peut nous séparer du Christ si nous sommes attachés à lui, si nous avons confiance en lui, si nous l'aimons et si nous nous comportons de façon correcte avec lui. Sachant donc trouver la paix, la joie et la force dans la prière, la méditation et la lecture de la parole va nous aider. Donc, je dis, ne vous en faites pas. Dieu, notre Dieu, s'occupe de tout. Amen.